Fabien Bergès, directeur du théâtre Scène nationale du Grand Narbonne, est notre invité aujourd'hui. Nous avons, alors, vous avez plus exactement, en répondant à mes questions, décrit un petit peu alors, le cadre, si je puis dire. On va rentrer maintenant dans la fonction, celle que tout le monde attend, celle du directeur d'un théâtre, c'est-à-dire celui qui fait, en fait, la programmation. Alors, comment ça se passe? J'imagine que vous voyagez déjà pour aller voir ce qui se passe ailleurs. On commence par là, peut-être.
En effet, pour faire une programmation, il faut voir déjà beaucoup de spectacles. Moi, j'en vois environ 150 à 200 par an.
Ah oui, ça fait un tous les deux jours.
Ouais, quasiment. Voilà. Alors, en fait, j'ai des moments où j'en vois un peu plus. Je vais, par exemple, au Festival d'Avignon. En une semaine, j'en vois une quarantaine.
Oui, forcément.
Voilà. À la fois dans la cour d'honneur du Palais des Papes, dans le Hin, mais aussi dans des petits théâtres, dans le Hof. Je vais voir les autant que je peux des spectacles, des compagnies de ce territoire, de l'Occitanie, en l'occurrence, au grand large. Au sens large, mais aussi des créateurs nationaux, internationaux, et c'est comme ça, en discutant avec mes collègues aussi, on travaille beaucoup évidemment en réseau, notamment aujourd'hui où nous sommes incités à mieux produire, mieux diffuser, c'est-à-dire à mutualiser, à faire en sorte que quand on fait venir des artistes, ils puissent réaliser des tournées, peut-être jouer une date à Sète, puis à Narbonne, et puis à Foix ou à Perpignan.
Le souci écologique de ne pas trop polluer la planète.
Exactement, ça fait partie aussi des critères que l'on prend en compte, hein, de pas faire traverser pour une date la France entière à des artistes et les faire repartir, d'être un peu cohérent. Et aussi pour la cohérence artistique. Donc voilà, les échanges que j'ai avec mes collègues et homologues, notamment de Scène Nationale, font aussi partie de la manière dont se construit la programmation, quoi. Voilà, voir des spectacles, en parler, s'associer à d'autres, et avec tout ça, en général, on arrive à trouver son bonheur.
Oui. Alors donc, il n'y a pas seulement le spectacle lui-même, le choix des troupes et des spectacles. Il y a ce souci logistique qui est présent.
Ah ben oui, effectivement, faire une programmation, c'est pas juste des coups de cœur, hein. Il y en a, mais c'est aussi effectivement une logique, une logistique et une logique budgétaire. Déjà, hein.
Oui,
on fait
oui,
une programmation dans un cadre contraint, hein. Voilà, j'ai une enveloppe tous les ans que l'on détermine en fonction du budget que l'on a et on se dit ben voilà, on a cette enveloppe là pour faire la programmation. Il y a après la disponibilité des compagnies, les opportunités de tourner, et c'est avec tout ça que se construit la programmation qui doit au final être un bon équilibre, comme un plat, quoi, un
oui,
bon plat.
Il y a une partie subjective et une partie très rationnelle.
Ouais,
finalement.
Complètement rationnelle. Moi, je compte le nombre de spectacles de chaque discipline, de théâtre, de danse, de musique. Même aujourd'hui, nous avons aussi la responsabilité de tendre. Je dis de tendre parce que ça reste encore difficile, mais vers la parité entre les artistes féminines et les artistes masculins que l'on propose aussi, parce que ça a été longtemps, comme dans d'autres secteurs de notre société, quoi, quelque chose qui n'a pas été pris en compte, et aujourd'hui ça fait partie, c'est mentionné dans les objectifs d'une Scène Nationale de prendre en compte, donc ce n'est pas qu'un critère, mais on y fait attention. On fait attention aussi à promouvoir les artistes de la région Occitanie, c'est normal, il faut que dans leur territoire de vie ils trouvent des interlocuteurs et des lieux de diffusion. Donc effectivement il y a des critères comme ça un peu objectif, quoi, voilà.
Oui, il y a un mélange d'objectif et de subjectif.
En effet, après, il faut quand même voir des spectacles dont on pressent qu'ils vont toucher le public, dont moi-même, qu'ils me fassent quelque chose, quoi. Si un spectacle ne me fait rien, en général, j'ai du mal à imaginer qu'il va pouvoir faire quelque chose à d'autres.
Oui, oui. Donc le rôle quand même de pèlerin qui va de salle en salle, c'est quand même incontournable.
Ah ben oui. À un moment donné, il faut aussi ouvrir son cœur et essayer de se laisser toucher et voir à quel endroit on peut être touché. Et voilà, évidemment, moi aujourd'hui, avec tous les spectacles que je vois depuis un certain nombre d'années, je suis pas un spectateur complètement vierge. J'arrive avec aussi forcément quand je regarde un spectacle, je l'analyse un peu en même temps.
Un peu même beaucoup.
Voilà. Mais j'essaye aussi de me mettre à la place d'un spectateur lambda qui vient comme ça quelques fois dans l'année au théâtre, qui se pose pas 10 000 questions sur les formes de l'art. Et je me dis tiens, est-ce que ce spectateur-là sera touché, concerné par Et en général, il faut que je réponde par l'affirmative pour pouvoir répondre. Pour pouvoir avoir envie de programmer ce spectacle.
Oui, il faut commencer par là. Et alors, le dosage, puisque le bâtiment c'est un théâtre, mais qui accueille indifféremment du théâtre, de la musique, du cirque, Il y a pas mal de cirques.
De la danse.
De la danse, etc. Oui. Donc, il y a, traditionnellement, vos prédécesseurs avaient établi une sorte de dosage. Vous êtes à peu près resté là-dedans.
Je suis resté à peu près le même. Le théâtre reste la discipline de prédilection. Mais ce qu'on appelle les arts du mouvement, donc la danse et le cirque, qui depuis un certain nombre d'années, notamment la danse, quoi, ont vraiment rencontré beaucoup de succès à Narbonne, occupent une place importante, un tiers voire 40% de la programmation, de la musique aussi, même si la musique est aussi prise en charge sur ce territoire par d'autres programmations, d'autres programmateurs, la ville, le Grand Narbonne, c'est... Alors que la danse et le théâtre et le cirque, par exemple, il y a que nous vraiment qui en faisons, hein, à l'échelle de l'agglomération, quoi. Alors que en musique, on peut avoir des propositions de musique classique ou jazz, un peu autre, voilà. Donc c'est pour ça que le théâtre, la danse et le cirque sont les disciplines de prédilection. Et un peu aujourd'hui, les formes hors les murs aussi, même dans l'espace public, c'est quelque chose que l'on essaye aussi de développer. Ça, c'est aussi parfois un genre en soi, quoi.
Oui, le hors les murs, je le garde pour une partie particulière, justement, parce que c'est un petit peu une des spécificités, en tout cas nouvelles, du théâtre.
Oui. Ça correspond à mon projet, en effet, et à la manière dont j'ai proposé de remplir les objectifs que l'on nous donne.
Voilà, et d'un théâtre qui est devenu, parce que ça n'a pas toujours été le cas, qui est devenu communautaire.
Exactement.
C'est-à-dire qui est géré par l'Interco, par le Grand Narbonne.
Tout donc, à fait, avec 37 communes, 37... du coup, qui doivent se sentir concernées.
Voilà. Alors donc, le dosage, vous l'avez évoqué, alors certains secteurs, la musique, la danse, le cirque, permettent de faire appel à, par exemple, à des compagnies étrangères, y compris de langue. Le théâtre, par contre, lui, implique que la langue soit présente et connue. C'est-à-dire, pour vous, le théâtre passe par la francophonie.
Oui, essentiellement. Ça peut nous arriver, c'est pas le cas cette année, c'était le cas l'année dernière, d'avoir une pièce étrangère dans une langue étrangère. L'an dernier, c'était en brésilien. Il y a aujourd'hui des dispositifs de surtitrage, donc de traduction en direct, qui sont très efficaces et qui permettent au public de découvrir. Et ça peut avoir un intérêt de voir comment le théâtre se fabrique aussi dans d'autres pays du monde, quoi. Mais évidemment, c'est moins facile. Il y a des coûts de mobilité aussi qui sont bien plus importants. Donc, et il y a déjà pas mal d'artistes en France. Donc, il y a de quoi, en général, remplir une programmation.
Oui, voilà.
Et le théâtre est un art aussi qui est très divers entre le théâtre classique contemporain, autobiographique, le théâtre d'objets, le clown. Enfin, il y a des formes vraiment tellement diverses que déjà, avec une programmation, il est même impossible de rendre compte de toute la diversité de cet art, quoi.
Mais au niveau de la francophonie, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pièces avec, par exemple, des Québécois qui ont un fort accent québécois, je ne sais pas.
Alors cette année, il n'y en a pas, mais l'an prochain, je suis en train de pister une compagnie québécoise, dont j'ai adoré le travail découvert à Avignon, donc ça serait possible. Il y a des compagnies belges régulièrement qui sont diffusées
en France. Oui, qui ont peut-être moins l'accent marqué.
Oui.
Mais les Québécois, ça reste un peu le côté exotique de la francophonie.
Ça peut, en effet, oui. Oui. Il y aura peut-être quelque chose à découvrir comme ça la saison prochaine. Cette année, non. Cette année, les artistes internationaux que nous accueillons ne le sont que dans les disciplines de la danse et de la musique et du cirque.
Oui, donc ici, pas de problème de langue.
Mais effectivement, on accueille par ce biais-là, et moi j'adore ça. Là, récemment, on a accueilli une troupe de danse de circassiens de Guinée. Au mois de novembre, on aura des danseurs et des musiciens du Portugal. C'est aussi une chance, quoi, de pouvoir accueillir un peu le monde à Narbonne,
une ouverture sur le monde,
sur d'autres cultures, sur d'autres manières d'envisager l'art. C'est chaque fois, je sens bien, il y a un appétit chez les spectateurs de découvrir aussi c'est une manière de voyager sans quitter sa ville.
Oui, donc la scène nationale peut devenir une scène internationale.
Complètement, c'est dans ses missions aussi.
Oui. Et alors, on va pas vous demander, Fabien Bergès, une liste sur la saison, évidemment, ça serait fastidieux, mais il y a toujours, dans une saison, un ou deux ou trois spectacles coup de cœur dont vous pensez que ça a fait tilt pour vous, vous pensez que ça va le faire pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de choses que vous avez retenues dans cette optique-là?
Alors, j'aimerais parler de Joël Pommerat et son Marius de Pagnol que j'ai découvert au Printemps des Comédiens, qui est une proposition... pour moi, qui est vraiment à l'endroit exact de ce que doit faire une scène nationale. Marius de Pagnol, une référence partagée par tous.
C'est l'original de Pagnol.
C'est un original qui a été quand même retravaillé. Joël Pomera, pour moi, il y a trois ingrédients dans ce projet. Donc, il y a Marius de Pagnol, tout le monde connaît cette œuvre. Et
la trilogie.
C'est la première partie de la trilogie, en effet. Elle est souvent jouée, même dans notre région. Et d'ailleurs, on voit comment cette œuvre qui traverse le temps a encore des choses à nous dire aujourd'hui sur notre rapport à l'amour, au temps, à la passion, au sens que l'on donne à sa vie. Ensuite, il y a Joël Pomera, qui est pour moi un des plus grands dramaturges français aujourd'hui. Voilà, auteur, metteur en scène, qui tourne dans les plus grandes scènes de l'Hexagone, quoi, vraiment. Donc c'est un artiste vraiment de premier plan. Et puis il y a cette spécificité qu'il en a donné aussi son regard, sa vision, notamment en montant ce projet initialement en prison avec des détenus qui n'étaient pas des comédiens professionnels. Et qu'il a retrouvé une fois qu'ils ont eu fini de purger leur peine, et il a monté une distribution qui mélange des comédiens professionnels donc et non professionnels, enfin qui sont devenus, il faut que ça hein, pour le moment, et qui donne une saveur vraiment particulière à son œuvre, quoi, une épaisseur humaine, une sorte de voilà, qui il y a une forme de naturel, de fragilité, de fêlure de la vie qui sont mis au service des personnages et de l'histoire.
Du fait que ce sont d'anciens détenus.
Ouais, en tout cas du fait que ce sont pas des professionnels du théâtre, quoi. Voilà, il y a une forme comme ça, ils abordent le théâtre d'une manière plus peut-être plus brute. Hein. Très très bien dirigé, c'est l'art là du metteur en scène, quoi. C'est pas
oui,
à donner
oui, quand même.
À tout le monde là de mettre réunir 5 personnes et de leur faire jouer du théâtre, quoi. Voilà, je trouve qu'il y a alors la pièce a été réécrite par Joël Pomera, elle est un peu transposée dans le Marseille d'aujourd'hui, le café de César est devenu une boulangerie salon de thé.
Mais les dialogues sont restés les mêmes.
Oui, il y a des petites adaptations mais que tout le monde comprend. Et l'histoire, la trame est la même. Voilà, je trouve que c'est une très belle manière de redécouvrir ce monument de la littérature, du théâtre et du cinéma et ce patrimoine du Midi de la France.
Mais il y a l'accent ou pas ?
Oui, parce que la plupart sont originaires de Marseille et ils le forcent pas, ils l'ont.
Voilà. Donc le tu me fends le cœur, il sera intact. Ouais.
Il y est d'une autre manière, vous verrez, mais il y est.
Oui, donc alors voilà un spectacle déjà qui doit donner l'eau à la bouche de certains.
J'espère, voilà un spectacle que nous verrons au mois de mai sur notre scène. D'ici là. Qu'est-ce que je peux citer d'autre comme coup de cœur dans un tout autre genre, mais en restant dans le théâtre, au mois de janvier, nous accueillerons une jeune compagnie, voilà l'émission d'une scène nationale, des acteurs qui ont entre 30 et 40 ans, sortis des grandes écoles de théâtre professionnel en France. Eux, ils sont sortis de l'école du Théâtre National de Bretagne et ils ont monté un spectacle qui parle de la famille, une écriture originale, ça s'appelle À l'Ouest. C'est eux qui ont vraiment écrit le spectacle au plateau à partir d'improvisation. C'est une histoire de famille, 5 frères et sœurs qui vivent dans la maison familiale dans laquelle s'est passé un drame. Et le spectacle, comme une enquête, vient retirer les fils et de ce drame et des liens familiaux qui les lient tous. C'est poignant, c'est touchant, c'est drôle, c'est vivifiant et il brûle les planches véritablement. Et voilà, je trouve que c'est aussi une manière de découvrir ce que des jeunes artistes font du théâtre aujourd'hui.
Oui, c'est une écriture actuelle.
Voilà, c'est une écriture complètement actuelle. On a l'impression parfois d'être au cinéma. En même temps, c'est très poétique. Il y a un très beau rapport à la radio. Parce qu'il y a un des personnages qui enregistre tout pour garder la mémoire, c'est un peu une métaphore un peu même dans la scénographie, il y a des bandes de magnétiques comme il y a plein de choses, plein de sujets, plein de traitements, voilà, c'est un joli spectacle à découvrir au mois de janvier.
Voilà, qui s'appelle donc
À l'Ouest, le collectif Bajour.
Le collectif Bajour À l'Ouest en janvier.
Tout à fait.
On marque, Fabien Bergès, une seconde pause.